répondre à Cagnard, tout à l'heure à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale, il est 6h30 en temps universel, même heure à Bamako, le journal.
Pierre Boudias.
Après Goma, une nouvelle capitale provinciale congolaise menacée par le M23, les membres du groupe armé soutenu par le Rwanda aperçus hier à Bukavu, principale ville du Sud Kivu, le point sur les derniers développements dès le début de ce journal. Qui pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'est l'un des enjeux du 38e sommet des chefs d'État de l'organisation qui s'ouvre ce samedi. Trois candidats sont en lice dans un scrutin qui s'annonce incertain. La suspension de l'aide américaine met en péril le système de santé ougandais. Le gouvernement anticipe un manque de fonds en appelant les travailleurs du privé au bénévolat temporaire, une demande qui inquiète les représentants du secteur, vous l'entendrez. Et puis sublimer le fognon pour avoir la chance d'ouvrir son propre restaurant, c'était tout l'enjeu d'un concours de gastronomie qui se tenait hier à Dakar. Le dossier d'Afrique Matin se faufile ce samedi dans les cuisines des 7 chefs qui ont rivalisé pour réinventer cette céréale souvent méconnue. En République démocratique du Congo, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, progresse dans le sud Kivu. Après avoir pris le contrôle de l'aéroport et des zones avoisinantes, les combattants soutenus donc par l'armée rwandaise sont désormais signalés à Bukavu, la capitale provinciale. Bonjour Patient Ligaudi.
Bonjour Pierre.
Ce matin, la ville est plongée dans l'incertitude. Ses habitants vivent dans la peur.
La FCM-23 a fait son entrée dans Bukavu en début de soirée, mais jusque tard dans la nuit, le groupe armé soutenu par Kigali ne contrôlait pas toute la ville. La nuit a été difficile pour les habitants que nous avons pu joindre ce matin. Ils ont entendu des tirs nourris. Vers 3h du matin, l'intensité des détonations s'est accentuée. En ce moment même, des tirs résonnent encore dans certains quartiers de Bukavu. Selon des témoignages, les crépitements des balles sont particulièrement entendus du côté du camp Sayo, l'un des plus grands camps militaires de la zone. On ne sait pas ce qui s'y passe. Face à cette situation, la plupart des habitants restent cloîtrés chez eux, redoutant de sortir dans un climat aussi incertain.
Patient Ligaudi. Et dans ce contexte, le président congolais a une nouvelle fois appelé à mettre à l'index le Rwanda qui soutient donc cette milice du M23. Depuis Munich où il participait à un sommet sur la sécurité, Félix Tshisekedi a dénoncé, je cite, les velléités expansionnistes de Kigali. Le chef de l'État qui est rentré en urgence à Kinshasa ne participera pas au sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi. Sommet en marge duquel le président de la commission Moussa Faki Mahamat a une nouvelle fois appelé au cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Propos tenus après une réunion du Conseil Paix et Sécurité de l'organisation. Et autre conflit qui a occupé les participants à cette réunion, celui qui frappe le Soudan après près de 2 ans d'affrontement. Moussa Faki Mahamat a dénoncé un échec moral de notre époque et appelé les chefs d'État du continent à rester unis pour exiger un cessez-le-feu. Le président sortant de la commission qui a également mis en garde contre les influences étrangères qui alimentent selon lui cette guerre civile. Puissance que le Tchadien n'a pas nommée mais qui mène selon lui une guerre par procuration dans le pays. Des prises de position en forme de discours d'adieu pour Moussa Faki Mahamat qui laisse donc sa place à la tête de la commission de l'UA après 2 mandats. Sa succession est l'un des enjeux majeurs du sommet des chefs d'État qui s'ouvre aujourd'hui en Éthiopie. Le vainqueur sera élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. 3 candidats sont en liste pour le poste et le résultat est toujours incertain alors que la bataille pour se rattacher le soutien des États membres se poursuivait ces dernières heures, force en présence avec Clotilde Hazard.
Tous les pronostics sont encore permis. Les candidats doivent obtenir la majorité des 2/3 sur les 49 États membres votant pour gagner. Si le favori du scrutin, le Kenyan Raila Odinga, ne parvient pas à réunir la majorité les premiers tours, il pourra se retrouver seul contre le candidat djiboutien Mahamoud Ali Youssouf ou le malgache Richard Andri Amandrato, susceptible alors de le rattraper grâce au report des voix. Soutenu par son gouvernement, l'ancien ministre kenyan de 80 ans affirme avoir sécurisé le vote de 28 pays. Mais jeudi, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a appelé ses 16 États membres à voter pour l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache, ce qui pourrait rebattre les cartes. Mahamoud Ali Youssouf, actuel ministre des Affaires étrangères djiboutien, est un sérieux concurrent loué pour ses compétences par de nombreux États. De plus, les bulletins sont secrets et les ralliements officiels peuvent changer au moment du vote. Le mode de scrutin laisse aussi une autre possibilité. Si les États membres trop divisés ne parviennent pas à dégager une majorité, les élections élections sont suspendues et le poste reste vacant. C'est alors le vice-président qui assure l'intérim jusqu'à l'organisation d'un nouveau vote. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et à noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit s'exprimer à la tribune lors de l'ouverture de ce sommet dans quelques heures. RFI, il est 7h34 à Yaoundé, le Cameroun, qui commémorait hier le 5e anniversaire du massacre de Ngarbou le 14 février 2020 dans la région anglophone du Nord-Ouest. Des soldats et supplétifs de l'armée gouvernementale camerounaise attaquaient le village soupçonné de collaborer avec les séparatistes. Au moins 21 habitants, dont 13 enfants, sont tués. Certains corps retrouvés calcinés dans des maisons incendiées. 5 ans plus tard, le procès de 2 soldats et d'un gendarme est toujours en cours devant le tribunal militaire de la capitale Yaoundé, loin du lieu du massacre. Lewis Mudge et de l'organisation Human Rights Watch appellent les autorités à faire avancer les choses pour que justice soit rendue et que des officiers supérieurs soient inculpés.
5 years on. 5 ans
après, c'est une insulte pour les familles des victimes que seuls 2 soldats et un gendarme fassent l'objet d'une enquête, alors que les recherches que nous avons menées et d'autres enquêtes ont indiqué qu'il s'agissait certainement d'une vengeance perpétrée par les forces de sécurité camerounaises avec des milices Peul et que des commandants supérieurs ont eu une part de responsabilité. Pour nous, à Human Rights Watch, cette affaire est devenue emblématique de l'impunité des forces de sécurité et de l'état du système judiciaire. 5 ans après, nous commençons à penser que si ce procès traîne à un rythme si lent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et nous pensons que cette raison, c'est que le système judiciaire camerounais ne veut pas que la justice soit rendue. Est-ce le fait de sa propre volonté ou à cause de pression? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'après 5 ans, les excuses pour justifier les retards deviennent intolérables.
5 years later, is that excuses for the delays are becoming intolerable.
Des propos recueillis par Amélie Tullet. La campagne pour la présidentielle au Gabon aura lieu du 29 mars au 11 avril. Elle durera donc 14 jours et se terminera la veille du scrutin prévu le 12. Annonce des autorités par décret à la suite d'un conseil des ministres qui s'est tenu jeudi soir. Les candidats pourront s'inscrire du 27 février au 8 mars prochain. Parmi les nouveautés annoncées, un bulletin unique pour tous les candidats. Une demande de longue date des oppositions. Travailler gratuitement dans un esprit patriotique, c'est ce que sont encouragés à faire les personnels soignants du secteur privé en Ouganda. La proposition émane du ministère de la Santé et fait suite à la suspension de l'aide américaine par le président Donald Trump. Dans leur communiqué, les autorités évoquent donc un bénévolat temporaire le temps que les négociations avec Washington aboutissent. Flavia Kyomukama est directrice du groupe d'action pour la santé, les droits de l'homme et le VIH-Sida en Ouganda. Et selon elle, ces nouvelles mesures renforcent l'inquiétude des soignants, mais également des malades.
On est dans l'incertitude. C'est d'autant plus compliqué d'envisager comment assurer la continuité du traitement quand nous savons tous que nos centres de santé sont déjà pleins. On m'a déjà rapporté que des cas de suivi de traitement de tuberculose ou de VIH, où les malades ne viennent même plus. Ce sera d'autant plus difficile pour les jeunes, avec la stigmatisation associée à certains groupes, de venir au centre officiel pour se soigner. Le gouvernement doit donc se réveiller et faire ce qu'on attend de lui. Il y a un engagement à assurer afin que la distribution des médicaments essentiels ne s'arrête pas et que le gouvernement de l'Ouganda investisse l'équivalent de ce qui a été donné dans des produits qui sauvent des vies. Le gouvernement a dit qu'il s'engage à trouver ces fonds utilisés pour les produits de base. Nous espérons alors qu'il trouve des solutions. C'est un appel à agir. Ils devraient être capables de se réveiller et de prendre le contrôle de la santé de leurs citoyens.
Des propos recueillis par Wely Diallo. Un mot de sport et de football avec la reprise du championnat de première division en République démocratique du Congo ce week-end. Une saison qui redémarre bien sûr dans un contexte rendu particulier par la guerre qui frappe l'est du pays. Nous en parlions. Les clubs ont tenu à retrouver le terrain, notamment pour des raisons financières. Plus de 3 mois après leur dernier match, les joueurs de Lubumbashi Sport vont retrouver les terrains ce samedi face à leurs voisins du TP Mazembe. Reportage de Pascal Mwengala.
Plan de fortune, c'est comme ça qu'on peut qualifier le temps de préparation dans lequel s'est inscrit le Lubumbashi Sport, en croire son entraîneur Ilunga Mukadi.
100 jours sans jouer, l'automatisme, ça va manquer, mais on a cherché des matchs de préparation. Nous croyons que les petits ont quelque chose dans les jambes.
Mais jouer Mazembe en ouverture de la phase retour a toujours un goût particulier, au point de faire oublier aux joueurs les difficultés de préparation. Fernando est un attaquant camerounais des kamikazes.
C'est vrai, même depuis qu'on a arrêté les championnats, on avait beaucoup travaillé. Je pense que tout le monde est en bonne santé. Et le coach aussi nous a demandé de respecter les consignes et rester concentrés. On est frais. Si on est ici, c'est pour jouer le match et on est prêt pour jouer ce match.
Pour le président du club, Pichizonde, les multiples arrêts du championnat sont pour lui un gros cauchemar.
Parce que je finance cette équipe avec l'épargne de mes propres enfants. Et c'est dur, je n'ai rien obtenu, même pas un dollar. Ça, c'est triste. Mais mon objectif, c'est d'investir sur le capital humain, dans le potentiel de la jeunesse. C'est ça qui me motive.
Pour d'aucuns, Lubumbashi Sport peut tout de même faire valoir, du haut de ses 96 ans d'existence, son statut de vieille dame de RDC pour rivaliser d'ardeur avec Mazembe. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Et puis eux ne se sont pas affrontés sur la pelouse, mais bien derrière les fourneaux, les sept chefs d'Afrique de l'Ouest qui participaient hier à un concours de gastronomie africaine. C'était à Dakar. Des cuistots qui ont rivalisé d'idées de plats autour du fonio, cette céréale ancienne, mais méconnue des grandes cuisines. À la clé, pour le gagnant qui sera désigné aujourd'hui, un accompagnement pendant un an pour monter son propre restaurant dans la capitale sénégalaise. Le reportage de Léa Lisa Westerhoff.
Chef! Vous venez prendre vos denrées ici. Allez.
Toque blanche sur la tête, ils sont sept, chacun à son poste, sous un parasol.
Non, pas stressé.
Jean Zinsou, béninois, est chef dans un grand restaurant de Dakar.
J'ai préparé un rosti de fonio avec une roulade de volaille. Facile, avec une sauce aux fruits du Sénégal qui s'appelle Mad.
À ses côtés, il y a aussi Bilal Messaoud, spécialement venu de Nouakchott.
Et c'est une grande opportunité pour nous, pour montrer pour le monde les produits qu'on utilise beaucoup en Mauritanie. C'est une surprise.
Tous ont en commun d'utiliser du fonio, une céréale ancestrale un peu plus épaisse que les grains de semoule.
On a le sel, on a
pour Honora Konan, venu de Côte d'Ivoire, il est grand temps de valoriser ces ingrédients du continent.
Si on a la possibilité de manger du caviar aux grandes tables, c'est l'occasion de faire manger du netetou qui est une épice africaine qui a tous les saveurs diététiques et même le fonio également, il est sans gluten.
Pendant 4 heures, les 7 cuistots ont eu pour mission de préparer entrée, plat et dessert autour du fonio. Des menus servis ensuite à un dîner de gala dont l'entrée payante doit servir à financer une école hôtelière à Kinshasa en République démocratique du Congo. Caroline Niembe-Lastman, présidente de la fondation Patrice Emery Lumumba, organisatrice de l'événement.
Il y a un besoin de formation parce qu'on a constaté qu'il faut aller en Europe ou bien en Afrique du Sud, former aussi les personnels, des commis, des chefs des salles, et tout ce qui concerne la restauration en fait.
Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Sénégal ou Togo, le gagnant du concours gastronomique sera connu ce soir, avec à la clé un accompagnement financier pour monter son restaurant. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et parmi les co-organisateurs de ce concours de gastronomie, il y a Youssoufa Diémé, président de la Fédération des chefs cuisiniers au Sénégal. Et pour lui, imposer le fonio comme ingrédient commun à ce concours de gastronomie, c'est une façon de réhabiliter cette céréale quelque peu oubliée, qui est pourtant cultivée depuis des décennies au Sénégal, bien avant le riz. Et elle représente beaucoup d'atouts. Et en premier, celui de ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau pour pousser. On écoute Youssoufa Diémé.
La gastronomie africaine connaît très peu le fonio. On commence. On pratique plus le mil, plus le maïs. C'est pourquoi il faut beaucoup vulgariser. On est en train de faire de telle sorte qu'elle soit bien répandue dans les cuisines africaines et même à l'international. C'est intéressant parce que c'est une céréale qui lutte contre la faim. Avec une petite quantité, on arrive à avoir un grand volume. Donc ça peut régler un peu le problème de la souveraineté alimentaire. Elle est quelque part un peu difficile à travailler parce qu'elle est mélangée à un peu de sable. Et il faut la tamiser, elle est difficile à cuire, mais avec celle qu'on a, elle est pré-cuite, elle est facile à faire. Ça va toujours avec une sauce parce qu'elle est légèrement sèche, elle va avec le mafé, elle va avec toutes les sauces d'arachide qu'on fait en Afrique.
Le dossier d'Afrique Matin préparé par Léa Lisa Westerhoff. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez dans un instant Julien Coquel-Rouem pour la